Avant la prière, j'aimerais lire du psaume 146. Psaume 146. Alléluia. Alléluia. Louez l'Éternel, car... Louez l'Éternel, mon âme loue l'Éternel. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre. En ce même jour, leurs desseins périssent. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. À lui qui a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, il garde la fidélité à toujours. Il fait droit aux opprimés. Il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les captifs, les prisonniers en allemand. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes. L'Éternel protège les étrangers. Il soutient l'orphelin et la veuve. Mais il renverse la voie des méchants. Jusqu'ici, cette précieuse parole de Dieu. Si nous recevons dans notre cœur et croyons ce que nous avons lu, alors Dieu nous tend la main. Nous ne devons pas nous confier aux hommes. Ça, nous l'avons compris. Mais nous devons comprendre que nous pouvons vraiment nous confier entièrement à Dieu. L'une est bien, mais l'autre appartient à cela. De savoir que les hommes ne peuvent pas sauver, aider, secourir, de savoir que les hommes peuvent nous décevoir et que nous serons confus de nous confier en eux. Ça, c'est un côté de la chose. Mais l'autre, de savoir que Dieu ne peut pas décevoir, de savoir que nous ne pouvons pas être confus en lui. Il faut que cela nous soit aussi accordé, de le savoir. La première partie, ça je veux le répéter, nous l'avons tous sûrement de manière amère, avec des expériences amères dans notre propre corps, et dans notre propre âme et esprit, nous l'avons appris, nous l'avons vécu. La première chose que nous ne devons pas nous confier aux hommes est devenue une partie de notre vie, nous le savons. Nous savons que nous ne pouvons pas nous confier aux hommes. Mais, maintenant, la deuxième chose doit devenir une partie encore plus ferme de notre vie de croyants, que nous pouvons nous confier en Dieu et qu'en lui, nous ne serons pas confus. Nous pouvons venir à lui, nuit et jour, Il ne dit pas une fois. Tu ne peux pas, tu peux te confier en moi et ensuite on est confondu. Non. Notre Dieu est un Dieu véritable. Un Dieu fidèle. Il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, le verset 5 du psaume 146, qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. Qui met son espoir en celui qui a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, en allemand. Qui garde la fidélité à toujours. C'est ici la promesse que le Seigneur fait, te fait à toi et à moi. Il veut te faire à toi et à moi aujourd'hui. Qui garde la fidélité à toujours. Éternellement, et qui ne change jamais son opinion, ses pensées, qui ne peut prendre une autre décision que celle qu'il a déjà prise avant même la fondation du monde, c'est-à-dire de te sauver toi et moi, de faire de nous des fils et des filles de Dieu. Et aussi ce nous ne voulons pas oublier cette partie. Le verset 7, qui fait droit aux opprimés, qui donne du pain aux affamés et qui délivre les prisonniers, qui ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel qui redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel qui aime les justes. Il y a toujours dans tout le psaume en allemand une relation avec le verset 3, avec le verset 5. L'Éternel protège les étrangers. Et c'est merveilleux. Et ce qui est merveilleux, c'est que c'est vrai. C'est vrai et que nous pouvons nous confier en lui et l'avoir comme notre espoir et nous attendre à son secours. Dans cette conviction, nous voulons au Seigneur entièrement nous confier que aujourd'hui il reçoit ce qui lui revient de plein droit parmi nous, dans ta vie et dans ma vie, et que il peut confirmer sa parole, accomplir sa parole que nous venons de lire, et aussi toutes les promesses qu'il nous a données par sa grâce. Nous voulons nous lever pour la prière. Père céleste, de tout notre cœur, de tout mon cœur, je te remercie avec tous les frères et toutes les sœurs qui sont présents et avec tous ceux qui sont liés avec nous et qui dans leur prière pensent à cette réunion. Seigneur, agrée-nous que nous puissions d'une manière visible et qu'on puisse t'expérimenter d'une manière qu'on peut le voir, le ressentir. Et la foi, ta parole est venue dans notre cœur. Et dans cette foi et dans cette confiance, nous venons maintenant à toi. Dieu fidèle, Dieu juste, toi créateur du ciel et de la terre, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Vois-nous aujourd'hui dans ta grâce et bénis, Seigneur, ton héritage. Pardonne toutes les transgressions, expie toutes les fautes, purifie et sanctifie-nous dans ta présence et parle avec nous par ta parole et par ton esprit. Seigneur, je te remercie de ce que aujourd'hui nous pouvons être ici rassemblés pour parler avec toi. Et je te demande que tu puisses, toi aussi, en retour, parler avec nous. Parle comme un père avec, et parle avec ses enfants, avec ceux avec qui il a dépensé de paix. Et fais-nous devenir des enfants de Dieu obéissants, des gens que tu peux bénir et que tu peux faire devenir une bénédiction pour les autres. Ôte tout ce qui dérange, tout ce qui pourrait se tenir en obstacle à toi, et que tu puisses toi-même te frayer un chemin pour l'honneur et la gloire de ton saint nom. À toi, ô Dieu, nous disons déjà maintenant toute la reconnaissance de ce que tu nous as déjà exaucé et que tu nous béniras. Dans le saint nom de Jésus. Amen. Amen. Nous nous asseyons. Aujourd'hui, je n'ai pas de sujet particulier. Il y a plusieurs choses qui m'occupent. J'ai une cassette ici qui encore concerne des choses qui se réfèrent à la lettre circulaire où des frères à Stockholm le 27 juillet 83 ont prêché certaines choses qui ne sont pas bibliques. Et donc, dans la lettre circulaire, il est question de ces choses. Et en venant ici de la rue Poche, je me suis posé cette question, mais pourquoi est-ce que je dois même m'occuper avec ces choses, de ces choses qui ne sont pas justes devant Dieu? J'aurais préféré laisser tout tomber, tout ce qui est dit, est interprété, ne même pas le toucher. Si cela ne me concerne pas personnellement, bon, donc, chacun peut dire ce qu'il veut. Celui qui veut sur moi comme un tapis s'essuie les pieds, je veux même faire ce service, lui faire ce service et me t'aider à sa disposition pour qu'il puisse essuyer les pieds sur moi comme un tapis. Mais quand il s'agit de la parole de Dieu, quand il s'agit de la vérité, alors les choses sont différentes. Alors les choses sont différentes. La vérité doit rester vérité et n'a plus le droit d'être mélangé avec d'autres, avec des opinions, des façons de voir, des credos, encore moins des interprétations, des enseignements qui vraiment viennent de démons, qui doivent venir de démons, parce que ils remettent même en question la parole de Dieu, anéantissent la parole de Dieu et veulent mettre leur opinion à la première place. Qui de vous pourrait croire que quelqu'un lit de l'épître de Timothée, et c'est-à-dire ce verset très connu depuis longtemps, 1 Timothée, je vous le lis. Nous sommes ici parmi nous et j'ai tellement prêché que maintenant je vais seulement parler, sans prêcher. Ici dans 1 Timothée, le chapitre 4, au verset 1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. En allemand, à des doctrines qui viennent de démons. Par l'hypocrisie de faux docteurs en allemand, par l'hypocrisie de menteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Ils prescrivent de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés, etc. Ici, pour moi, il s'agit principalement de cette phrase. Ils prescrivent de ne pas se marier. Et dans cette cassette, celui qui parle pose la question, qui tient l'exposé. Avez-vous déjà rencontré un homme qui aurait prescrit de ne pas se marier, qui aurait interdit de se marier? Et les présents ont dit dans la prédication, non. Bon. Et ensuite, le prochain point était, il dit, vous savez pourquoi est-ce que vous n'avez jamais rencontré une telle personne? Parce que cette parole, en fait, a une signification spirituelle, c'est ce qu'il dit. Et ensuite, il expose que Christ, depuis 1963, est descendu sur cette terre déjà. Et maintenant, le mariage entre l'époux et l'épouse a lieu sur terre. Et quiconque empêche cela, donc prescrit que ce mariage n'ait pas lieu, que l'épouse ne soit pas mariée avec son époux déjà ici sur cette terre. Donc, quand on réfléchit à cela, vous verrez que je ne cite jamais de nom, je dis jamais de nom, parce que cela n'est pas juste devant Dieu. Mais quand on réfléchit que des gens qui ont entrepris des voyages avec Frère Branham, qui en partie ont préparé ces réunions, et qui ensuite, dans tant de points, dévient, ça, c'est une douleur et une douleur profonde et grave. Si aujourd'hui, ou bien quelque part, ou bien dans un temps, je mentionne ces choses, ce n'est surtout pas parce que cela me plaît de le faire, mais c'est avec la douleur profonde du cœur, de l'âme, que à la pure parole de Dieu, le message divin de Dieu, avec tous les mystères de Dieu qui ont été révélés, on ajoute ses propres interprétations. Et c'est un désordre et une confusion totale qui est produit. Et il y en a beaucoup qui écoutent cette cassette et encore disent Alléluia. On n'a pas besoin d'être croyant depuis longtemps. On n'a pas besoin d'avoir beaucoup de l'Esprit de Dieu, d'avoir vraiment l'Esprit de Dieu. D'avoir reçu un peu de Dieu suffirait pour savoir que la parole de Dieu pense à ce qu'elle dit et dit ce qu'elle pense. Quand il est écrit ici, il prescrit de ne pas se marier. Et quand, par exemple, ils disent que le temps de la grâce est passé, que le trône de la grâce est devenu le trône de jugement, déjà, ils disent aussi « Amen à cela ». Mais moi, si j'entends cela, je serais terrifié à mort si quelqu'un me dit que le temps de la grâce est passé. Imaginez-vous ce que cela signifie pour toi et pour moi, si réellement cela serait vrai, que le temps de la grâce serait passé. Nous pourrions crier et s'enfuir. Alors, ça voudrait dire que Dieu nous aurait laissés et que nous n'aurions pas été enlevés et que nous serions réprouvés. Et les gens disent « Amen » à des choses comme ça qui devraient être maudites, des choses condamnées, des choses qui n'ont pas leur place dans le royaume de Dieu et dans la prédication de la parole de Dieu. Et qu'ensuite, un homme qui en 1974 était avec les hippies dans la rue, il prétend que le temps de la grâce en 1963 est passé. Et lui-même, en 74, donc en 74, il était encore un croyant et parmi les hippies. Et il dit qu'en 63, le temps de la grâce est passé. Imaginez-vous. Ça veut dire qu'il n'est même plus. Ça veut dire qu'il n'a pas été enlevé. Le Dieu ne l'a même pas appelé. Ça veut dire qu'il est venu trop tard. Les hommes sont fous. Ils ne savent plus ce qu'ils disent. Oui, c'est vrai ou bien pas? Et quand les cassettes là me sont envoyées, vous pouvez bien ressentir ce qui se passe en moi. Plus grave que ça, sur terre, ça n'a jamais encore été. Et la plus grande douleur consiste à ce que tous ces enseignements-là ne sont pas apportés dans les dénominations ou bien dans les groupes de ceux qui rejettent le message, qui ont rejeté le message et le messager. Mais cela se passe parmi ceux, et donc ça pénètre et ça se propage justement là où des gens ont accepté la pure et sainte parole, ont écouté la pure et sainte parole de Dieu et l'ont écouté, et l'ont accepté. Je sais une chose, c'est que tous ceux qui sont de la vérité, qui sont nés de Dieu jusqu'à la fin, écouteront la parole de Dieu. Et ils ne regarderont pas à droite et à gauche et ne dévieront pas à droite et à gauche. Ils vont rester fermement fondés sur le fondement de la parole de Dieu jusqu'à le dernier jour de leur vie, jusqu'à l'enlèvement, jusqu'à ce que le Seigneur revienne pour nous prendre auprès de lui dans la gloire. Mais, selon la parole de Dieu, n'est-ce pas, dans les derniers jours, il faut qu'il y ait des doctrines qui viennent de démons par l'hypocrisie de faux docteurs, de menteurs et des faux docteurs et des menteurs. Cela ne manque pas, n'est-ce pas, aujourd'hui? Qu'est-ce que cela veut dire? Et je dois toujours le dire en insistant. J'aurais préféré qu'on pourrait lire une parole de Dieu, ouvrir la Bible, ouvrir une parole de Dieu et parler de cette parole. Mais mettez-moi à ma place, mettez-vous à ma place. Depuis des années, on a envoyé des prédications, on a servi des personnes, ils ont lu les brochures, on leur a envoyé, ils ont lu les prédications de Frère Branham, ils ont goûté la parole précieuse de Dieu et expérimenté les puissances du monde à venir, comme c'est écrit dans Hébreux, le chapitre 6. Et ensuite, ils se détournent et vont là où ils ne devraient pas aller et croient ce qui n'est absolument pas à croire. Ça, c'est une douleur profonde. Et j'espère que Dieu, dans sa grâce insondable, encore une fois intervienne et juge, prononce le droit comme dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas, les sacrificateurs avaient le pectoral avec les 12 pierres et ainsi ils ont prononcé le droit, ils ont jugé. Quand la lumière brillait, alors la chose était juste. Et si la lumière du pectoral ne brillait pas, alors on pouvait oublier la chose. Frère Branham a parlé de ça dans les années 58, je crois, une prédication merveilleuse là-dessus. Il dit dans le Nouveau Testament, c'est l'enseignement des apôtres, la parole de Dieu, qui est ce pectoral. Et si quelqu'un annonce quelque chose, raconte quelque chose, et que la lumière ne brille pas, la parole de Dieu ne reflète pas la lumière là-dessus, alors, si les choses restent obscures, on peut oublier ce qui est annoncé et raconter. Il faut toujours que ce soit biblique. Peut-être que vous avez peut-être lu cette remarque sur le calcul de l'année. On vient à cela, à l'année 83 et 84. Il n'y a personne sur Terre qui aurait le droit de faire un tel calcul. Si les Saintes Écritures disent une demi-heure, alors c'est une demi-heure. Et quelque part, je l'ai dit, si on fait une expérience avec Dieu, quand on a une expérience avec Dieu, alors on ne regarde pas pendant l'expérience à l'heure. Mais c'est après l'expérience, quand l'expérience est passée, qu'on revient à soi, alors on estime à peu près à quelle heure l'expérience a été et combien de temps est-ce qu'elle a duré. Elle peut avoir duré. Et justement, cette demi-heure, parce que cette demi-heure est un sujet en ce moment, je devais penser au 2 avril 1962. Je n'ai pas regardé à l'heure. Mais quand plus tard je pouvais réfléchir, elle a dû durer une demi-heure. Mais cela ne sert à personne. Que ce soit une heure ou bien mille heures, ça n'a pas d'importance. Personne est capable de proposer un calcul à Dieu, de donner un calcul à Dieu et d'attendre ensuite que Dieu se dirige d'après ce calcul, fasse les choses d'après ce calcul. Et la plupart font une erreur grave. Ils écoutent en écoutant le septième sceau, ils s'arrêtent au premier verset. Et ça, c'est la plus grande erreur que les hommes peuvent faire. Même si ici, même dans la Bible, il y a une petite interruption et les choses sont départagées. Donc, elles ne sont pas départagées par Dieu. Ce partage est fait de ceux qui ont traduit la Bible. Je vous lis cela dans Apocalypse chapitre 8, verset 1. Quand il ouvrit le septième sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et je vis les sept anges qui se tiennent devant Dieu et sept trompettes leur furent données. Je pouvais maintenant continuer à lire. Et chacun qui veut voir et comprendre le septième sceau comme Dieu le voit, il doit continuer à lire. C'est impossible de s'arrêter au premier verset. Car ce qui suit est le résultat de ce qui a été annoncé dans le premier verset. Et en fait, ce silence a lieu au ciel, pas sur terre. Et les gens ont calculé la chose pour la terre. Pour la terre, ils ont dit 1000 ans comme un jour comme 1000 ans. Donc, divisons toute l'histoire. Et alors, nous venons à 20 ans et quelque chose et plusieurs mois. Mais le silence, j'insiste encore, le silence a lieu au ciel et pas sur terre. Même si cela était permis, ce qui n'est absolument pas permis, mais si c'était permis, alors ce calcul ne nous servira à rien sur terre. Si la chose se déroule au ciel. Merci, frère Vernon. Il y en a un qui a dit Amen. Je crois que nous pouvons tous dire Amen à cela. C'est ainsi ou pas? Et nous sommes assis ici aujourd'hui en tant que les hommes les plus simples parmi les plus simples. Et nous le comprenons parce que nous avons été enseignés par Dieu. Alléluia! Parce que nous avons été enseignés par Dieu. tous ceux qui sont enseignés par Dieu, qui ont été enseignés par Dieu, vont toujours rester dans le cadre et le contexte de la parole de Dieu. Ils ne vont jamais en sortir. Ce qui m'occupe beaucoup est le fait que Dieu nous a accordé la pure semence de sa parole. Et que cela a réussi à l'ennemi de nouveau de s'infiltrer et de propager son interprétation. Vous savez que Ève a seulement fait que écouter. Et cela était déjà une erreur. On n'a pas le droit, dans de tels cas, de prêter son oreille. Il ne faut même pas écouter parce que chaque semence ou bien chaque parole est une semence. Et le fait de l'écouter, elle est semée et il y a toujours quelque chose qui reste. Et comme autrefois, avec Ève, le serpent a dit, vous serez intelligents, vos yeux s'ouvriront, etc. Aujourd'hui, vous aurez de l'intelligence, vous recevrez. Et aujourd'hui, il s'agit de faire croire aux gens que maintenant, des choses sont apportées à la lumière qui auparavant était encore restée inconnue. Moi, je n'appartiens pas à ceux qui utilisent continuellement le nom de Frère Branham, qui emploient continuellement. Mais j'appartiens à ceux qui de tout leur cœur croient que chaque révélation des Écritures, chaque mystère et chaque enseignement et chaque prophétie par le ministère prophétique de Frère Branham, de Dieu, ont été révélés. C'est tout. Car il est encore écrit dans Apocalypse, n'est-ce pas ? Que bénis sont ceux qui écoutent ce que l'Esprit dit à l'Église. Donc, les mystères de Dieu ont été révélés tels que Dieu l'avait promis. Jamais j'oserais ajouter le moindre des choses à cela. Pour moi, la parole de Dieu est exactement sainte comme Dieu lui-même. Et si Dieu, par sa parole, me dit que quand cela arrivera, alors nous avons tous à prêter l'oreille à ce que l'Esprit dit à l'Église. Et c'est Dieu directement qui parle avec nous par sa parole. C'est ainsi dans tous les âges, aussi dans notre âge. Et il y en a beaucoup qui attendent encore une parole du Seigneur particulière. La parole du Seigneur dans ces jours n'est pas ce qu'un oncle ou bien une tante s'est fabriqué. La parole de Dieu dans cette génération a été apportée par la sainte bouche de celui qui a été consacré et mandaté en tant que prophète de Dieu. Et ça, c'est à ça que nous avons apprêté l'oreille, que nous avons accepté et à croire. Encore, il est écrit dans l'Ancien Testament, mais ça, c'est aussi la parole de Dieu. Dans 2 Chroniques 20, verset 20, faites confiance à Dieu le Seigneur, croyez Dieu le Seigneur, croyez ses prophètes, et vous serez, et vous réussirez et serez vainqueurs. C'est le plan de Dieu de ce que toutes ces choses aient lieu selon sa volonté. Qui donne à qui le droit de dire que le Seigneur est déjà telle et telle date revenu? Dans ma Bible, il est écrit en relation avec le retour du Seigneur. Deux seront dans un même lit, deux seront à la même mule, deux seront dans le même champ. Est-ce que vous pouvez comprendre que des gens de renommée et de nom peuvent être induits en erreur de cette sorte, à tel point qu'ils oublient ce qui est lié au retour du Seigneur. Pour eux, le retour du Seigneur peut arriver sans que les événements promis liés à son retour, témoignés clairs dans les Écritures, dans la Bible, arrivent et s'accomplissent. Oh, que Dieu, à toi et à moi, à nous tous, et à tous ceux qui veulent subsister devant Dieu, qu'il puisse au moins accorder une pensée cohérente et la réflexion claire. Parce que et on a le droit de douter à ces faux enseignements. Ça, c'est justifié. Car quelqu'un qui lit la Bible, la parole de Dieu, il doit avouer que tout ce qui est écrit en relation avec le retour du Seigneur doivent d'abord trouver le raccourcissement. Donc, en fait, il n'y a aucune écriture qui nous dirait que Jésus descend sur cette terre, sur la terre même. La Bible témoigne que nous irons à sa rencontre dans les airs. Notre rencontre avec Jésus-Christ, notre Seigneur et Rédempteur et Sauveur, l'époux de notre âme, de nos âmes, n'a pas lieu ici à Zurich, ou bien à Krefeld, ou bien quelque part d'autre, sur terre, mais dans les airs. Et ensuite, avec lui, nous allons dans la gloire. C'est seulement après le ministère des deux témoins que, avec tous les saints, il reviendra. Et pas, il ne revient pas, il ne reviendra pas en Amérique, hein. Mais il reviendra à Jérusalem. Et c'est là qu'il mettra ses pieds sur la montagne des Oliviers. Et la montagne des Oliviers va se fendre. Si quelqu'un vient à vous, quelqu'un de quelconque vient à vous, et vous savez, il y a durant des années déjà, à 22 personnes à Jérusalem, j'ai rencontré 22 personnes à Jérusalem qui tous ont témoigné qu'ils sont les deux témoins d'Apocalypse en 22 personnes qui sont les deux témoins. Qu'est-ce que c'est? Si quelqu'un vous dirait, le Seigneur est sur la montagne, est descendu sur la montagne des Oliviers, venez voir ça. T'as pas besoin de regarder. Les deux sont pas importants. Mais si la montagne se serait fendue, on peut déjà l'oublier. Cela doit être en accord avec le contexte de la Bible. Et c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui pour moi, bien frères et sœurs. Je suis déçu de ce que tant, oui, c'est une expression relative de dire tant. Mais quand on pense aux âmes, alors vous savez qu'une âme est encore plus précieuse que le monde entier. Moi, j'ai tous dans mon cœur. Je les porte tous dans mon cœur. Tous ceux qui, depuis des années, ont écouté la parole de Dieu. Et je vous demande, pas à cause de moi, mais à cause de vos âmes et de votre salut, et à cause du Seigneur, et à cause de sa parole, ne croyez rien, si ce n'est que vous le trouvez dans les Saintes Écritures. Et acceptez ce que frère Branham a dit. Et prenez-le dans les Saintes Écritures. Et ajustez-le aux Saintes Écritures. Parce que ça a sa place dans les Saintes Écritures. Très bien. Il n'y a jamais eu un homme parmi tous les évangélistes et les réformateurs dont l'annonce de la parole de Dieu, dont le ministère, tout en tous, était à 100% en accord avec les Saintes Écritures et s'ajustait parfaitement de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse 22, comme le ministère de frère Branham, que de tout notre cœur nous aimons. Pour qui nous sommes reconnaissants à Dieu de ce que, dans ces jours, il a été d'une manière si puissante utilisé par le Seigneur. Mais le combat et la tension est encore sur terre. On voit les choses et on sait malgré tout que le Seigneur, quelque part dans le futur, je peux attendre. Vous pouvez vous abandonner à cela. Vous confiez à cela. Je peux attendre. Si Dieu peut attendre jusqu'à que son heure arrive, est-ce que moi, je dois me dépêcher? Nous allons continuer à faire les choses comme jusqu'à maintenant. Traduire les prédications devant la face de Dieu, persévérer dans la prière jusqu'à que l'heure de Dieu arrive. Et ensuite, ce ne sont plus des paroles, mais ce sera des actes divins que nous verrons. Les actes de Dieu, ce qui est remarquable, ce serait que tous ceux qui acceptent certains enseignements qui ne sont pas bibliques, toute leur conduite change. Même leur visage, l'expression de leur visage, et ça, ce n'est pas faux, je l'ai vu dans certains cas, l'expression de leur visage s'est obscurcie. Chaque enseignement vient de quelque part. S'ils ne viennent pas de Dieu, ils viennent d'où alors? De qui alors? Il n'y a que deux sources de révélation. Si ça ne vient pas de Dieu, alors d'où viennent ces enseignements? De l'obscurité, des ténèbres, de l'ennemi. Donc, quand on voit des gens qui sont donc dans leur visage obscur, d'un moment à l'autre, ils changent d'un moment à l'autre. Je l'ai vu de mes propres yeux naturels, j'ai pu le constater. Toute l'expression du visage change. C'est un regard obscur. Tous ceux qui sont de Dieu et qui sont enseignés par Dieu, qu'ils puissent passer par des épreuves, par des difficultés d'une manière qu'ils ne savent même plus comment faire. Mais quand on le regarde dans les yeux, alors ils ont un regard clair. Le regard n'évite pas les yeux, mais ils ont un regard serein, clair. Vous direz, mes frères Franck, tu viens de parler un mot où le soleil, n'est-ce pas, brille plus de 30. A brillé plus de 30 degrés, mais pas seulement quand le soleil brille, mais même pendant la nuit, n'est-ce pas? Nous avons la clarté de notre Dieu. Et vous savez ce que Paul écrit aux Corinthiens? Que Moïse s'est pris un voile qu'il a mis sur son visage. Et il a dit, nous, en tant que serviteurs de la Nouvelle Alliance, nous ne le faisons pas, mais nous reflétons la gloire de Dieu. Notre Dieu a parlé avec nous. Et sa parole est pour tous claire qui, dans leur cœur, ont cette clarté. Par la parole de Dieu. Tout dépend de notre cœur. Ici, dans Jean 15, j'ai lu une écriture qui a eu beaucoup de choses à me dire. Dans Jean, chapitre 15, verset 15. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Jean 15, verset 15. Mais je vous ai appelé ami. Et maintenant, écoutez. Parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris. Vous avez tous lu? Je vous ai fait connaître tout. Je ne vous appelle plus amis, serviteurs, mais mes amis. Parce que je vous ai fait connaître tout. Pas seulement quelque chose. certaines choses, pas seulement la moitié, mais tout. S'il y a eu un temps qui a existé dans lequel ce verset biblique là a sa justification d'exister, a trouvé son accomplissement, alors ce sont les jours dans lesquels nous vivons. Je ne sais pas si Martin Luther, si tous les autres déjà ont lu Hébreu 13, verset 8 et ont insisté là-dessus, comme dans les autres, on aurait pu insister là-dessus, comme cela a eu lieu dans cette génération. Hébreu 13, verset 8. Je ne le sais pas. Je pense que ce n'était pas le cas. Et beaucoup d'autres écritures a été pour eux une parabole, une énigme. Et aujourd'hui, si notre Seigneur était visible ici, parmi nous, et qu'on pouvait l'écouter en direct, il dirait, cette écriture qui vient d'être lue est accomplie devant vos yeux dans cette génération, à vos yeux, devant vos yeux et à vos oreilles. Tout, je vous l'ai fait connaître, je vous l'ai révélé et je l'ai introduit dans le conseil de Dieu comme dans aucun autre âge qui a existé avant cet âge. Est-ce que cela n'est pas quelque chose de merveilleux? Est-ce que cela ne vous console pas? Est-ce que cela ne vous fait pas dire que Dieu nous aime? Nous ne sommes plus des serviteurs et des étrangers, mais des amis de Dieu. Gens de sa maison. Et j'aimerais avec Paul dire que je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu à cause de l'Église de Jésus-Christ. Si les choses étaient indifférentes pour moi, alors vous n'aurez même plus besoin de revenir encore une fois à la réunion pour écouter mes prédications. Ça ne peut pas être indifférent pour moi. Il s'agit de l'achèvement de l'Église, du Dieu vivant. Et nous, en ces jours, dans ces jours, nous expérimenterons ces choses. Nous verrons ce que Dieu a promis s'accomplira. Et aussi ce verset de Jean chapitre 13, le verset 20, ici il est écrit, en vérité, je vous le dis, Jean 13, verset 20, celui qui reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Alors qu'il n'y a pas longtemps, pour moi seul, je lisais cette écriture, j'ai commencé dans mon cœur à être reconnaissant. La reconnaissance a survenu dans mon cœur. J'ai dit, Seigneur, alors qu'autrefois tu m'as appelé, tu m'as dit, je vais t'envoyer dans d'autres villes pour prêcher ma parole. Ici, le Seigneur dit, en vérité, je vous le dis, celui que j'aurai envoyé, c'est la condition, celui que j'aurai envoyé, ce n'est pas seulement de recevoir quelqu'un, mais celui que j'aurai envoyé, alors me reçoit, si c'est quelqu'un que j'ai envoyé. Et celui qui me reçoit, reçoit. Et le Seigneur a même dit, celui qui vous reçoit, me reçoit. Et je suis convaincu de cela. Pas convaincu en moi-même en tant qu'homme, mais en raison de l'autorité de la parole de Dieu que nous venons de lire. Par cela, je suis convaincu que nous sommes dans la volonté de Dieu et que c'est dans sa pureté, dans sa clarté, sa vérité que nous avons écouté la parole de Dieu et que dans la patience, nous allons attendre jusqu'à ce que cela plaise à Dieu de faire les dernières choses qu'il reste à faire. Il y a une chose qui est nécessaire, que de tout notre cœur, nous soyons régénérés dans notre âme, transformés, changés, préparés pour que le jour de la visitation divine, de la grâce de Dieu ne nous surprenne pas et ne nous trouve pas sans être préparés, sans être prêts, mais que nous puissions nous tenir déjà maintenant prêts en étant régénérés, transformés dans notre cœur et préparés dans une bonne disposition, prêts et ensuite attendre ce jour. Dans Marc chapitre 7, le Seigneur a écrit certaines choses et a mentionné des choses et les a dites en insistant comment est-ce que les choses doivent encore changer. Et j'espère que vous comprenez cela. Notre vie ne sera pas transformée parce que nous écoutons beaucoup de prédications, mais parce que la parole de Dieu, nous la recevons dans notre âme en tant que la semence de Dieu. Nous la recevons et c'est la parole qui produira ce qu'elle a promis et ce qu'elle a dit. Peut-être que je devrais peut-être vous lire ces deux versets encore rapidement d'abord. Et c'est-à-dire dans Genèse chapitre 1, verset 11. Déjà, la dernière partie, il est écrit concernant de eux. La terre produisit de la verdure, fruitifiant, donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. De l'herbe portant de la semence des arbres fruitiers. Ensuite, au verset 29, presque la même chose est écrite. 29. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute terre portant de la semence. Portant de la semence. Vous connaissez la prédication que tout produit selon son espèce. Maintenant, il s'agit de l'espèce divine. Christ est la semence de Dieu qui déjà, dans Genèse chapitre 3, au verset 15, a été promis. Ensuite, pas l'Apocalypse, mais ici dans Ésaïe, chapitre 53, cette parole puissante est écrite que sur ce sujet, nous pourrions nous souhaiter. Dans Ésaïe 53, laissez-moi lire cela ici. C'est le chapitre qui parle de Gethsémané, de Golgotha, de la souffrance et de la mort de notre Seigneur. Ici dans Ésaïe, chapitre 53, à partir du verset 10. Et il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra une postérité et prolongera sa ses jours et la volonté de l'Éternel prospérera entre ses mains. L'œuvre de l'Éternel en français. Christ, la semence de Dieu. Tel que nous, terrestrement, nous étions dans le premier Adam, c'est ainsi que spirituellement, nous sommes dans le deuxième. Nous avons été dans le deuxième Adam en Christ. Aussi certain que la parole de la promesse divine a été annoncé à Marie et apporté à elle pour que la parole de la promesse devienne chair. C'est aussi certain aussi, de la même certitude, que la parole de la promesse divine maintenant dans le corps de l'Église est placée pour que l'épouse naisse de l'Église, sorte de l'Église. Parole de sa parole, esprit de son esprit, naisse de l'Église, vie de Dieu. Souvent, nous avons eu à le dire, Christ, notre Sauveur, est le Fils de Dieu. Nous, en tant que rachetés, nous sommes fils et filles de Dieu. Ici, il s'agit de la transformation de notre cœur. Dans Marc 7, au verset 14. Ensuite, ayant de nouveau appelé la foule à lui, il lui dit, donc à la foule, « Écoutez-moi tous et comprenez. » En allemand, il cherchait à comprendre. Alors que je lisais cela aujourd'hui, cela m'a plu beaucoup. Ensuite, ayant de nouveau appelé la foule à lui, ils se sont rassemblés autour de lui et il leur dit, « Écoutez-moi tous et cherchez à comprendre ce que je vous dis. » C'est la même chose qu'a lieu dans ce jour. Nous ne sommes pas rassemblés autour d'un homme, mais aux pieds du Seigneur. Mais maintenant, nous devons bien écouter. Imaginez-vous comment est-ce qu'avec amour, le Seigneur a parlé. Il a appelé tous à lui. Comme s'il voulait dire, maintenant, écoutez-moi bien, attentivement, et cherchez à comprendre ce que je vous dis. Ce n'est pas toujours avec une voix de tonnerre. Il les a rassemblés autour de lui. Et il dit, et aujourd'hui, il fait la même chose. Écoutez-moi tous et cherchez à comprendre. Vous pouvez vous-même continuer à lire le texte. Comment est-ce que le Seigneur parle de ce qui est extérieur entre dans l'homme et ne peut pas le souiller. Mais ce qui sort du cœur, vient du cœur, c'est ce qui souille l'homme. Et si nous recevons cela dans notre cœur, tout ce qui est dit ici, et en fait, et notre Sauveur insiste ici et dit tout de suite que celui qui a des oreilles, qu'il écoute. Alors qu'ensuite, ce verset, c'est si quelqu'un a des oreilles pour entendre qu'il entend. Ensuite, le verset 17, lorsqu'il fut entré dans la maison, loin de la foule, ses disciples l'interrogèrent sur cette parabole. C'est cette parabole. Il leur dit, vous aussi, vous êtes donc sans intelligence. Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui du dehors entre dans l'homme ne peut le souiller? Ne comprenez-vous pas cela? Car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis s'en va dans les lieux secrets qui purifie tous les aliments. Je l'ai vu. J'ai regardé comment cela est dans le texte original. Dans le texte originel, comme on le dirait ici ordinairement parmi le peuple, cela est redonné ici un peu plus poli. Ici au verset 20, il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les débauches, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie, toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Maintenant, nous venons à ce point. Dieu, par le prophète dans l'Ancien Testament, dit, je vous donnerai un nouveau cœur et un nouvel esprit. Combien de vous un nouveau esprit? Et combien de vous, n'est-ce pas, ont connu cette petite brochure, le miroir du cœur, je peux me rappeler. Je venais de croire à l'époque et cette brochure est venue entre mes mains. Le miroir du cœur. Très exact. Exposé comment est-ce que l'état du cœur d'un incroyant, d'un incrédule, de quelqu'un qui ne croit pas est. Et ensuite, l'état du cœur d'un croyant. Que sommes-nous? Qu'es-tu? Que suis-je? Cela a touché mon cœur et j'ai constaté que tous, d'une certaine manière, nous venons d'une mixture, d'une société mixée. Je parle maintenant du domaine religieux. Nous sommes une mixture, mais Dieu nous a vus dans sa grâce et maintenant, il a mis à notre disposition la semence incorruptible de sa parole pour que cette semence dans notre cœur puisse être reçue et que par la réception de cette semence, l'Esprit de Dieu ait la possibilité de créer en nous la vie de Dieu. Moi, personnellement, je me souhaite une vie divine. Divine, une nouvelle vie divine, une vie qu'avaient tous ceux en qui Christ pouvait rendre créer toutes choses nouvelles, dont il est écrit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Des hommes qui ont été aimés de Dieu, fait sortir, qui ont reçu la grâce, qui ont expérimenté le pardon et l'expiation de leurs péchés, leurs fautes. Des gens avec qui Dieu a fait une alliance pour qui il s'est porté garant. Ils ont le privilège. Ces gens-là ont le privilège de recevoir sa parole infaillible. Et sa parole a le germe de vie en elle. Alors ce n'est plus toi. Ce n'est plus moi. Plus tes efforts et mes efforts. Comment est-ce que c'était avec Christ? La parole a été annoncée. L'Esprit de Dieu est descendu. Et déjà quelque chose naquit. C'est-à-dire Christ selon la chair. Christ dans le corps. C'est la même chose avec nous. Et donc Christ dans un corps. Donc, j'ai essayé de l'exposer, j'espère que cela a suffi. Pas, ce qui est plus important, ce n'est pas la plus spirituelle, ce n'est pas le soleil spirituel. Ce qui est plus important, c'est la semence. C'est elle qui est d'une très grande importance. La semence de Dieu, la semence divine, la semence incorruptible, la parole de Dieu doit être là avant que la pluie de l'arrière-saison tombe. Et Dieu, n'est-ce pas, a pris soin de ça. La semence est là. Oh, comme c'est merveilleux. Ou bien alors, oui, elle est là. Comme c'est merveilleux. De ce que frère Branham a dit, l'ensemencement sera accompagné par la pluie de l'avant-saison. Mais avant, la récolte, la pluie de l'arrière-saison tombe. Et parfois, j'ai difficile à traduire ces mots qu'il utilise. Il dit subitement, sans sens. Ou bien alors, moi, je dois bien sûr trouver un mot pour un peu, trouver un mot plus agréable. Il dit, vous qui prétendez que la pluie de l'arrière-saison est déjà tombé. Alors, il dit, vous, il dit, c'est une folie, ça n'a aucun sens. Il y en a qui ont prétendu beaucoup de choses et on dit plusieurs choses. Mais Dieu, lui, il a envoyé son serviteur et prophète. C'est pour nous apporter l'enseignement divin d'une manière équilibrée. Pas à droite, pas penché à droite et plus trop penché à gauche. Et j'espère que, au temps convenable, j'aurai encore cet équilibre. Et je me rappelle comment est-ce que on apportait, on récoltait la moisson avec le chariot. On devait faire attention, comment empiler les bouquets des gerbes de la récolte pour ne pas que ça tombe de l'autre côté. Et veillez malheur à moi ou bien aux autres qui n'ont pas fait attention. Et nos chemins n'étaient pas autrefois comme ça, aplanis comme aujourd'hui. Quand on récoltait, le chariot était penché comme ça, et malheur à nous. Si le chariot n'était pas droit, la première fois, ça commençait à bouger, et la deuxième fois, ça glissait, la troisième fois, tout était renversé, il y avait quelque chose qui s'était passé. J'ai déjà vécu tout cela. Cela n'est pas nouveau pour moi. Comment empiler la récolte pour ne pas qu'elle tombe? Que Dieu accorde sa grâce pour que tout soit fait dans l'équilibre. Avant la récolte, pendant la récolte, que tout sous la conduite du Saint-Esprit ait lieu exactement, soit fait exactement selon l'ordre divin pour que rien ne se renverse et que tout soit conservé et amassé dans le grenier de Dieu. Et quand je pense encore à cela, que le Seigneur, il y a plusieurs années passées déjà, m'a montré, n'est-ce pas, cette nouvelle moissonneuse-batteuse. Il y en a qui disent que la récolte est déjà récoltée. Moi, je ne peux pas le dire. Au contraire, j'attends encore que Dieu donne un signal et qu'il soit avec nous en tant que le Seigneur de la moisson qui donne des ordres aussi d'en haut, n'est-ce pas? Il envoie encore les anges pour aider, pour ôter les scandales, parce que les anges sont des esprits au service de Dieu envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Il n'y a pas longtemps, j'ai lu la tentation du Seigneur et il est dit que l'ennemi l'a quitté et les anges sont venus pour le servir. Ou bien alors, oui, pour le servir, sont venus le servir. Oh là, de nouveau, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, fais quelque chose de semblable avec moi, que le jour puisse venir où Satan se retire de moi, doit se retirer de moi, et envoie tes anges pour qu'ils puissent aussi me servir. Parfois, je suis comme ça, je parle avec le Seigneur. Vous aussi. Nous tous, nous pouvons parler avec notre Dieu. Car c'est un Dieu personnel, devenu un Dieu personnel. Nous avons une relation personnelle avec lui. En Christ, il n'est plus le Dieu inconnu duquel Paul à Athènes a lu, n'est-ce pas, sur la grande place, un Dieu inconnu. Non, il disait cette nature que vous vénérez, mais que vous ne connaissez pas. C'est ce que je vous annonce. Il a commencé à prêcher. Comme c'est merveilleux, comme c'est glorieux. Soyez heureux. Réjouissez-vous. Jésus-Christ est vainqueur. Rien ne lui a jamais glissé des mains. Toi non plus et moi non plus. Nous sommes gravés entre ses mains. Et nous restons dans ses mains jusqu'à ce qu'il nous prendra dans la gloire. Dans sa gloire. Que le Dieu Tout-Puissant puisse détendre ses mains protectrices sur nous tous. Et que personne prête l'oreille encore à des choses qui nous chargent, qui nous induisent en erreur et nous trompent et nous égarent et toutes sortes d'autres choses. Que le Seigneur puisse de manière véridique laisser luire sa face sur nous et que nous puissions avoir notre chemin avec lui, marcher avec lui sur ses voies. Il y a quelque chose encore qui me vient dans la pensée. Ce frère disait, le Seigneur est revenu en 63. Et la prédication qui doit être éditée en décembre, nous venons de la traduire, de l'année 65. Et j'espère que nous allons encore élever. Là, frère Branham dit dans cette prédication que nous allons éditer en décembre. Nous attendons le retour du Seigneur. Oh, comme c'est merveilleux. Et c'était en 65. Comme c'est merveilleux de savoir que dans tout le message, pas une seule erreur existe. Tout est parfait. Et la parole parfaite révélée de Dieu par le Saint-Esprit. Écoutez, Jésus-Christ disait autrefois et aujourd'hui, vous êtes mes amis. Parce que je vous ai fait connaître tout. Est-ce que vous pouvez vous réjouir de cela? Pour moi, c'est une joie réelle et quelque chose de très précieux. Pas seulement un peu comme ça, mais ça signifie tout. Et il nous a pas seulement fait connaître quelque chose comme ça, un peu, mais tout connaître, fait connaître, tout connaître. Tout le dessein salut de notre Dieu, il nous l'a fait entendre. Et dans la foi et dans la confiance, nous voulons rendre grâce au Seigneur de ce que il achèvera de manière glorieuse son œuvre avec nous tous. Loué soit le nom du Seigneur. Amen. Levons-nous pour la prière. Peut-être que nous chantons ce chœur tel que je suis sans rien de moi. Tel que je suis sans rien de moi, sinon ton sang versé pour moi. Ton sang me purifie du péché. Ô agneau de Dieu, je viens. Je viens. Nous voulons garder les têtes courbées et persévérer dans la prière, nous recueillir. Et peut-être qu'il y a encore quelqu'un ici qui voudrait qui n'a pas encore consacré consciemment sa vie et qui n'a pas encore mis sa vie consciemment entre les mains de Dieu. Bien-aimé cœur, cela peut avoir lieu aujourd'hui. Ce jour peut être le jour le plus significatif dans ta vie, si tu, de tout ton cœur, pas seulement avec réflexion ou bien avec des calculs, mais de tout ton cœur, tu puisses en esprit, serrer dans tes bras le Seigneur et lui dire, Seigneur, tu es mon sauveur, tu es mon Seigneur. Tu as souffert pour moi. Tu as porté l'opprobre sur toi. Tu as versé ton sang. Tu m'as racheté. Je veux venir à toi. Agrée-moi. Pendant que nous sommes ainsi dans la prière et persévérons, je voudrais demander, si quelqu'un est ici qui souhaite la prière, levez alors maintenant vos mains. Merci. Merci, 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 merci. Que Dieu vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse tous. Je crois qu'une deuxième fois ne doit pas encore être donnée. Vous avez déjà reçu l'appel du Seigneur, répondu à son appel. Nous voulons directement prier. Père Céleste, tu as vu les mains et les cœurs, ô Dieu, au ciel. Qui sommes-nous? Nous sommes que de la poussière et de la cendre. Quel est l'homme? Qu'est-ce qu'est l'homme pour que tu penses à lui? Pour que tu te souviennes de lui et le Fils de l'homme et les fils des hommes, pour que tu sois attentif à lui et que tu lui fasses grâce. Ô bien-aimé Seigneur, tel que nous sommes, nous venons à toi. Nous te remercions jusqu'à ce que tu aies encore le temps de la grâce, qu'il y a encore des hommes qui sont sauvés, ô Seigneur, qui peuvent être sauvés. Ô Sauveur, sauve tous ceux qui maintenant tu te consacres leur vie, sauve leur âme, pardonne leurs péchés, délivre-les dans leur esprit, couronne-les de grâce et de miséricorde. Ô Sauveur, je voudrais à tous ceux qui ont écouté la parole en ce jour-là, je voudrais les revoir dans ta gloire. Ô Dieu, que ta parole ne revienne pas sans effet, qu'elle puisse produire l'effet pour lequel tu l'as envoyée. Je te remercie pour cela, et d'une manière particulière, pour le message glorieux de ta parole, pour l'envoi de ton serviteur et prophète qui devait passer par tant de tribulations, de mépris qu'il avait à surmonter. Mais il portait un message précieux, le message de Dieu pour le peuple de Dieu. Seigneur, agrée-nous, ô Dieu, que l'esprit de la vérité puisse nous pénétrer et se saisir de tout notre être pour que tous les autres esprits nous craignent parce que ils voient ton esprit et ta sainte onction sur nous et doivent respecter ça parce que ta parole est en nous. Et tel que l'onction nous enseigne, c'est ainsi que c'est correct devant Dieu, c'est juste devant Dieu. Et qu'il n'y a pas de mensonge. Je te loue, je t'exalte, je te remercie. Maintenant et dans toute éternité. Alléluia.
Amen.
Fin de la transmission.